Nous allons reprendre, si vous voulez bien, pour la deuxième partie, qui est donc le séminaire. Je voudrais juste vous faire une annonce avant de commencer. Je vous avais dit qu'il y aurait des films qui seraient montrés en liaison avec le cours. Et la première séance de cinéma aura donc lieu le 16 février, je ne sais plus quel jour de la semaine c'est, mais ce sera donc à l'école normale, rue d'Ulm, et on verra deux films de suite, avec une interruption pour en débattre, Au hasard Balthazar de Bresson et Masculin-féminin de Godard. Donc deux films du printemps de 1966, le 16 février. Il y a une autre séance qui est prévue, mais je crois avoir fait une erreur sur la date, donc je ne vous l'annonce pas tout de suite. 18h. Aujourd'hui, l'invité du séminaire est donc Gérard Genette, dont on a vu à l'écran il y a un instant, figure publiée au printemps de 1966. Je ne vais pas le présenter, je voudrais juste rappeler qu'à ce moment-là, puisque notre séminaire est consacré à ce moment de l'histoire, Gérard Genette était assistant à la Sorbonne. Peut-être qu'on peut aussi parler de cela. Peut-être qu'on peut, on pourra peut-être parler de cela. Ce que c'était qu'être assistant à la Sorbonne en 1965-1966. À l'époque, il suivait aussi le séminaire de Roland Barthes. J'aimerais bien qu'on en parle aussi de ce séminaire de Roland Barthes qui avait dans ces années 64-66 comme programme la rhétorique. Et, et notamment l'un des articles bien connus de Gérard Genette sur rhétorique et enseignement a dû avoir son origine dans un exposé fait au séminaire de Roland Barthes lorsque Roland Barthes faisait, lui, son séminaire sur l'ancienne rhétorique. Peut-être qu'on pourrait aussi parler de cela. C'est donc le moment où un certain nombre de ces articles, publiés pour beaucoup dans Tel quel, sont recueillis dans ce volume de figures, publiés dans la collection de Philippe Solers, Tel quel, au Seuil. On pourrait aussi parler de ces relations, et puis aussi ce que vous avez écrit sur Robe Grier, que j'ai pu évoquer. Il y a des changements. Après que Barthes a parlé de Robe Grier, vous parlez de Robe Grier. Alors j'ai fait le cours aujourd'hui sur Proust, aussi avec l'idée que nous pourrions parler de Proust et vous, comme Barthes avait intitulé un texte « Proust et moi », vous nous disiez comment vous êtes venu à Proust autour de ces années-là. Voilà un certain nombre des sujets que j'aimerais bien qu'on aborde en toute liberté, donc autour de l'année 65-66, de la publication de figures, de Proust, de Barthes, peut-être de vos rapports avec Svetlana Todorov, puisque ce sont les années de grande proximité également et de rencontres. Vous voulez
Je veux bien.
Parler librement et puis
Oui.
Alors, première, oui. Comme vous voulez.
Écoutez, première remarque de ma part, excusez une voix particulièrement encombré par je ne sais quelle sorte de bronchite. Oui, c'est possible, ça pourrait être utile. J'ai le sentiment d'être ici parce que je suis à peu près le seul survivant. Tant mieux que ça vous fasse rire. Je suis à peu près le seul survivant de toutes les personnes, de tous les auteurs, de tous les critiques, de tous les cinéastes qui se sont soit révélés, soit confirmés au cours de cette année Mirabilis, vous dites, je crois.
Qui a... oui. Solaire s'est déjà venu ici, oui. Invité au ce séminaire, oui. Et Todorov est déjà venu ici, ils sont survivants.
Oui, mais...
Pas
je... Non, si. Non, c'est plutôt moi qui ne suis pas tout à fait survivant. Mais enfin, je vais essayer de survivre encore pendant trois quarts d'heure. Non, je pensais à la liste qui est devenue un peu canonique dans quelques gazettes. Enfin, c'est là que je l'ai trouvée, en tout cas. La liste des personnalités, si je peux employer ce terme, qui se sont révélées cette année 66, c'est-à-dire, par exemple, qui ont publié un livre en 1966. Ou, je ne sais plus comment on dit, proposé, enfin, au public, un film cette année 66. Alors, il se trouve effectivement que dans cette liste, quand je la contemple, je suis obligé de constater que nous ne sommes plus très nombreux à, dans cette liste-là, je dis bien, et non pas de toutes les personnes qui vivaient en 1966. De toute façon, parmi ceux qui se sont révélés ou confirmés en 66, il y avait des personnes de tous âges, naturellement. Je pense que Jacques Lacan n'avait pas tout à fait le même âge que moi, et ainsi de suite. Enfin, quand je contemple, puisque je l'ai fait plusieurs fois depuis qu'elle a été publiée dans un journal du soir, quand je contemple cette liste, je ne peux pas m'empêcher de me remémorer une certaine page assez célèbre du Temps retrouvé, je crois, que vous connaissez probablement mieux que moi, où Charlus, qui ne va plus très bien déjà lui-même, égrène la liste de tous ceux qui sont disparus depuis pendant les quelques années où le narrateur était absent de Paris, je crois bien, si je ne m'abuse. Alors, il y a toute une litanie. Hannibal de Bréauté, mort. Antoine de Mouchy, mort. Charles Swann, mort. Et ainsi de suite. Voilà, je ne vais pas faire la transposition, nom par nom, de cette liste charlusienne, qui est beaucoup plus longue que ce que je viens de vous dire, et qui se termine par une assez belle phrase, qui est la dernière phrase de cette scène justement célèbre, qui dit, où Proust dit à peu près, ou le narrateur dit à peu près, chaque fois le mot « mort » tombait sur le défunt comme une pelletée, comme une dernière pelletée de terre, jetée par un fossoyeur, pressé de le river plus profondément à la terre. Alors, nous n'en sommes pas là. Je voudrais passer à un versant un petit peu plus réjouissant de cette auto et allélo remémorative. Je voudrais dire tout de suite que, oui, effectivement, je ne suis évidemment pas le seul de la liste qui soit encore vivant. Vous avez à juste titre mentionné Tsvetan Todorov, qui était un peu mon alter ego à l'époque, qui a publié lui aussi en 1966 un livre. On pourrait dire qu'il n'a pas publié un livre de lui en 1966, mais quand même un peu beaucoup de lui. C'est l'anthologie qu'il a publiée dans la collection telle qu'elle, tout à fait au début de l'année 66, je crois, Anthologie des textes des formalistes russes. C'est un livre dont je me souviens avec un peu d'émotion, car nous avons beaucoup travaillé ensemble sur cette traduction, sur le choix des textes, etc., etc. pour le proposer à Philippe Solers, qui était enthousiaste juste avant de recevoir ce livre. Et qui n'en a plus jamais parlé par la suite, je crois. Sinon, quelques phrases un peu acides entre deux portes. Donc, 66. Je fais partie de la cohorte de ceux qui se sont un peu révélés cette année-là. Le paradoxe, c'est qu'en 66, je n'ai rien écrit. Mais j'ai publié un livre. Un livre dont la matière, si j'ai bonne mémoire, remonte en termes de publication à l'année 1960, où apparut dans la revue Les Lettres Nouvelles, je crois, ce qui est le premier des chapitres de figure sur... qui fait partie des trois ou quatre textes consacrés à la poésie baroque française, qui se retrouvent effectivement dans ce volume. Il y en a en particulier trois, qui font les trois premiers chapitres de figure. Donc ce premier chapitre me renvoie à une publication qui, elle, date de 1960. On peut donc dire que ce volume paru en 1966 est le fruit d'un certain amoncellement qui a duré 6 ans, ce qui ne témoigne pas d'une grande vivacité de plume. Le fait d'ailleurs de publier à 36 ans son premier livre ne témoigne pas non plus d'une grande... Précocité, merci. Témoigne pas d'une grande précocité. J'ai pris depuis l'habitude de publier un livre tous les 3 ans, ce qui relève plus de la manie que de la vocation. J'ai même un souvenir assez précis concernant ce premier chapitre qui s'appelle, je crois, L'univers réversible. Ce souvenir, c'est que je l'ai écrit dans une toute petite chambre d'un tout petit hôtel de Bretagne, au cours de ce qu'on pourrait appeler, quelqu'un ici doit s'en souvenir, une espèce de voyage de noces. Cette référence un peu autobiographique est peut-être témoignage d'une certaine futilité. Une certaine fidélité aussi. Donc j'ai accumulé pendant 6 ans un certain nombre de textes qui relevaient essentiellement du genre de la critique littéraire et de ce qu'on appelait même plus spécifiquement à cette époque de la nouvelle critique. Mon maître et mon guide à cette époque était évidemment, tout le monde le sait, Roland Barthes. Mes objets ont été successivement, je ne veux pas égrener la liste des 18 chapitres de ce volume, mes objets ont été essentiellement donc la poésie baroque française, sur laquelle mon attention avait été évidemment attirée par le merveilleux livre de Jean Rousset, Circé et le Pain, donc la poésie baroque, Proust, qui est l'objet de ce chapitre que vous avez déjà mentionné, Proust Palimpseste, Rome Grillet, dans un texte intitulé, je crois, enfin, dans le livre, en tout cas, intitulé « Vertige fixé », il y a une certaine relation, malgré les distances temporelles, il y a une certaine relation, en tous les cas pour moi, enfin, dans mon intérêt pour ces choses, pour ces objets littéraires, il y a une certaine relation entre la poésie baroque française, Proust, et robe grillée, ce qui fait donc la matière de 5 des 18 chapitres de figure, et peut-être d'un ou deux autres que je n'ai plus en mémoire pour l'instant. Ce thème commun, ce motif commun à ces œuvres très diverses et historiquement assez séparées les unes des autres, c'est ce dont j'ai tenu compte dans le titre du chapitre consacré à Robe Grillée, c'est le thème du vertige. Pour moi, tel que je l'ai interprété, qui n'était déjà plus tout à fait fidèle à l'interprétation habituelle de l'art baroque en général et de la poésie baroque en particulier. Le thème du vertige n'a rien de... Brandir le thème du vertige à propos du baroque n'a rien de particulièrement original. Il suffit de penser, je sais pas, à la peinture de Rubens ou à l'architecture de Borromini, par exemple, même du Bernin. Mais simplement, je me faisais une certaine idée du vertige baroque, donc, et peut-être du vertige en général, qui passait, je crois, par un certain sentiment un peu égaré, d'une certaine sorte de vertige qui naît soit de la symétrie. C'est ce qui est, je crois, caractéristique dans le premier de ces articles, dans le second aussi. Le second porte sur le thème de Narcisse, et qui dit Narcisse dit symétrie, enfin, bon, le thème du miroir. Saint-Amand, auquel j'ai consacré le premier texte, traite aussi la surface de la mer comme un miroir, où se reflètent les oiseaux et les poissons. Enfin, je vais pas revenir sur cette petite zoologie fantastique. Et il va de soi par le titre, je ne vais pas en dire plus, que c'est ainsi que j'ai lu Robe Grillée. Robe Grillée a été lu de beaucoup de façons dans ces années-là. Il en était très satisfait, naturellement, sauf qu'il n'était pas d'accord avec ce qu'on en disait. La doxa disait qu'il était un romancier, un écrivain de la description objective. Je crois que cet adjectif doit figurer quelque part dans un titre d'un article de Roland Barthes consacré à Robe Grillée lui-même. Je ne sais plus à quel de ses romans. Mais Robe Grillée, lui, en était déjà plutôt à se considérer comme le romancier le plus subjectif qu'on puisse imaginer, le plus subjectif et le plus fantasmatique. Et moi, j'étais quelque part entre les deux, plus sensible à ce que j'ai appelé le vertige fixé. Bon, l'expression vertige fixé est empruntée naturellement à Rimbaud, mais en réalité, si je n'avais pas eu la coquetterie de cet emprunt, le terme le plus juste aurait été vertige figé. C'est ainsi que je lisais Robe Grillée. Par conséquent, je l'annexais aussi à ce terme venu du baroque, à ce thème venu du baroque qui est celui du vertige. Et naturellement, ma lecture de Proust, enfin cette première lecture de Proust qui est dans Figure et qui s'intitule Proust Palimpseste. Oh, il y avait un peu un certain goût de la contrepétrie dans le choix de ce titre, naturellement. Enfin, tous les cas du jeu de mots. Mais ce terme de palimpseste évoque pour moi, synthétise pour moi un certain vertige de l'écriture proustienne. Un vertige qui est maintenant, non pas exactement comme dans le cas de la poésie baroque ou dans celui de l'œuvre de Rome Grillet, un vertige que je trouve dans des phénomènes de superposition qui me paraissaient à l'époque en tout cas caractéristiques de l'œuvre de Proust. C'est évidemment ce phénomène de la superposition des objets dans leurs diverses variantes, des objets, des personnages, des paysages, des situations. C'est la façon dont ces différents objets de l'écriture proustienne se superposent et viennent en quelque sorte s'empiler les uns sur les autres comme dans une espèce de feuilletage qui m'a suggéré l'image, évidemment aujourd'hui vraiment banale, du palimpseste. Mais en ce temps-là, on ne pensait pas beaucoup au palimpseste. Ensuite, j'ai continué d'y penser, comme vous le savez, peut-être. Bien, tout ça s'est empilé aussi pendant les quelques années qui s'écoulent entre donc 1960, qui est l'année de publication du premier de ces chapitres, et 1966, qui est l'année de publication du recueil. Je peux vous raconter peut-être deux ou trois, si on est dans la petite histoire, mais on est dans la petite histoire, je crois. La façon dont ces divers petits essais critiques publiés, donc dans les lettres nouvelles, dans la NRF, dans Critique, dans tel quel, évidemment. La façon dont tout ça a abouti à ce livre. Auquel je ne pensais évidemment pas lorsque j'ai écrit le premier de ces essais. Donc un certain jour de 1965, je pense, Philippe Solers, qui dirigeait donc la revue et la collection telle quelle, où j'avais donné en effet deux ou trois de ces textes, m'a assez fermement suggéré d'en faire un recueil d'essais. J'ai trouvé cette suggestion un peu présomptueuse, un peu prématurée peut-être. Et j'ai donc éprouvé le besoin de consulter quelques autorités, en dehors de celle de Solers lui-même, naturellement, que je ne contestais pas à l'époque. J'ai naturellement consulté Roland Barthes. À cette époque, je ne pouvais rien faire sans consulter Roland Barthes, et à chaque fois que je consultais Roland Barthes, j'obtenais de lui une réponse qui, comme celle de l'oracle de Delphes, pouvait être interprétée soit dans un sens, soit dans l'autre. Jamais dans un troisième, mais... Donc, en général, je revenais évidemment de ces conversations. Enfin, il a dû me dire quelque chose comme... Faites comme vous le sentez. C'est comme ça. Moi, j'ai trouvé ça, évidemment, un peu indécis comme élément de décision. Je me suis tourné vers un autre de mes mentors de l'époque, qui était Georges Poulet, qui m'avait encouragé dans l'écriture de quelques-uns de ses essais, je ne sais plus très bien lesquels. Et j'ai demandé à Georges Poulet, est-ce que vous croyez raisonnable, puisque Solers me le propose, de brocher un volume d'essais critiques avec tout ce que j'ai écrit et publié, enfin parfois publié sans l'avoir... Non, pas publié sans l'avoir écrit. Écrit sans l'avoir publié. C'est vrai peut-être d'un ou deux de ces essais, je ne sais plus. Ça n'a aucune importance d'ailleurs. Bref, j'ai consulté Georges Poulet, qui était un caractère un peu plus décisif que celui de Roland Barthes, et qui m'a dit évidemment cette phrase, je ne risque pas de l'avoir oubliée entre-temps, il m'a dit « Faites-le, vous ne le regretterez jamais ». Évidemment, une phrase comme ça, on ne résiste pas. J'ai donc, je me suis retourné vers Philippe Severs, je lui ai dit qu'on allait donc essayer de faire ce recueil. Je continue dans la petite histoire auctoriale et éditoriale en même temps. Enfin, si je me lance dans le paratexte, vous savez, on n'est pas couché. Oui, dit Severs, très bien, bravo, je vais en dire un mot à Paul Flamand, qui était le patron du Seuil à cette époque. C'est très bien, il faudrait un titre. Eh oui, il faut toujours un titre. Heureusement, j'avais un titre qui me tournait dans la tête depuis quelques mois, peut-être depuis quelques années, que je voyais plutôt comme un titre de roman. Ce titre, c'était le mot « figure ». J'ai donc renoncé au roman, que je n'ai effectivement jamais écrit. D'ailleurs, je ne sais vraiment pas ce qui s'y serait trouvé. D'ailleurs, j'ai renoncé au roman en général. Et j'ai dit à Severs, eh bien, ça pourrait s'appeler « figure ». Figure au pluriel. Et puis, il y avait un article qui portait sur les figures de la rhétorique, qui avait dû paraître dans Tel quel aussi, qui devait s'appeler la rhétorique du langage, non, c'est pas ça. La rhétorique et l'espace du langage, ça doit pas encore être ça, mais peu importe. Toujours est-il que j'ai modifié le titre de ce chapitre pour donner une motivation, comme on dit, métonymique au titre général, et c'est ainsi qu'a pu paraître un volume intitulé « Figure » qui contenait un chapitre intitulé lui-même « Figure ». C'est une manipulation éditoriale tout à fait courante. Je tenais à ce titre, donc, que j'ai transféré d'un fantasme de roman à une réalité de recueil d'essais critiques. J'y tenais en particulier depuis que j'étais tombé en lisant Pascal, ce qui m'arrivait assez souvent à cette époque. Sur une phrase de Pascal qui est une merveille. Je ne voudrais pas quand même la défigurer, justement, alors il faut que je la retrouve. Elle m'a donné l'épigraphe de ce recueil, et cette phrase de Pascal, mais vous la connaissez tous, c'est « Figure porte absence et présence, plaisir et déplaisir ». Tout est là. Donc j'ai choisi ce titre, j'ai choisi cette épigraphe qui motivait ce titre. Ce volume ne s'appelait pas Figure 1. Je n'avais pas la prétention d'envisager Figure 2, etc. Donc il s'appelait Figure. Et Severs a dit, c'est un très beau titre, ça peut très bien être le titre, bien sûr, ça peut être le titre d'un roman, ça peut aussi bien être le titre d'un volume d'essai, très bien. Simplement, étant donné le répertoire habituel de notre collection, les gens vont croire que c'est un roman. Ah non, c'est pas possible ça. On ne peut pas laisser se répandre une telle interprétation du titre. Donc il m'a dit, il faut un sous-titre. Et c'est comme ça que j'ai choisi comme sous-titre. J'ai là sous les yeux un incunable. C'est un exemplaire de la première édition de ce livre. J'en suis heureux, connu plusieurs. Et donc, figure, et en dessous, un sous-titre, ce que j'appelle moi plutôt une indication générique, essai. Au pluriel, donc figure au pluriel, essai au pluriel. Bon, ben voilà, tout était à peu près réglé, si ce n'est que d'habitude, quand on publie un recueil d'essais critiques, même à cette époque,
surtout à cette époque, sans doute. Il est de bon ton de le faire précéder d'une introduction, au moins de quelques mots d'introduction, un avant-propos, quelque chose de ce genre. Et si possible aussi, quelques pages de conclusion. Enfin, vous voyez, que ça tienne un peu. Vous savez, les livres, il faut un serre-livre. Le serre-livre, dans l'édition, c'est introduction, le texte, conclusion. On a toujours fait comme ça. Alors, ça m'ennuyait un peu, parce que je ne voyais absolument pas ce que je pouvais donner en matière d'introduction à un recueil aussi... si j'ose le mot, mais j'ai fait pire depuis, hétéroclite. Entreprendre de donner une unité factice à un recueil hétéroclite, c'était vraiment au-dessus de mes... Non, pas seulement de mes moyens intellectuels, j'en avais encore quelques-uns, mais... De ma libido d'écriture. Non, je ne me voyais pas, je ne me voyais ni écrivant une introduction, ni écrivant une conclusion pour ce recueil hétéroclite. Voilà à peu près ce que j'ai dit à Solers. Et Solers, je pense, m'a répondu, on s'en fout. Ce qui était bien avec tel quel à cette époque, c'est qu'il y régnait une certaine insouciance, une certaine fraîcheur. Je dois dire que quand je repense à ce livre, publié un peu dans ce climat d'insouciance, je dois dire, en toute vérité affective, que la publication de ce livre et un peu du suivant d'ailleurs a dû vraiment beaucoup à la légèreté d'esprit, à l'insouciance du directeur de la collection telle quelle. Ça, quelles qu'aient été les péripéties suivantes, je ne veux pas l'oublier. Et quand je reconsidère ce premier livre, puisque ça donc était le premier livre, ce qui m'y attache, je suis obligé de le dire, de le confesser en toute humilité, ce qui m'y attache, c'est un certain sentiment à sa lecture, à sa relecture. Comme pour une occasion comme celle d'aujourd'hui. Relecture donc, dont je vous remercie de m'avoir donné l'occasion. C'est un sentiment de ce que j'appellerais fraîcheur. Stendhal parle quelque part de fraîcheur par souvenir. Je ne sais pas si j'étais si frais que ça quand j'ai écrit ce livre. Mais aujourd'hui, quand je le reconsidère, je le trouve effectivement marqué de ce label de fraîcheur, dont la contrepartie est évidemment, doit évidemment s'appeler quelque chose comme naïveté. Voilà, c'est un livre donc qui était empreint de fraîcheur et de naïveté, de qualité que, inévitablement, j'ai dû perdre un peu par la suite. Et je dois encore ajouter au titre du péritexte que, après m'avoir dit « mais on s'en fout, l'introduction, on n'est pas en Sorbonne ici », même ici, m'a dit « oui, mais malheureusement, il y a quand même quelque chose que vous devez faire, à moins que vous ne vouliez le faire par quelqu'un d'autre ». C'est écrire quelques lignes pour la quatrième page de couverture, parce que ça... Alors la quatrième page de couverture, elle a beaucoup changé depuis, naturellement. On a supprimé une photo, on a supprimé une esquisse de biographie, et puis on a supprimé aussi, je veux dire, dans les éditions suivantes, et en particulier dans l'édition de poche, on a supprimé ces quelques 20 lignes, de ce qu'on appelait à cette époque aux éditions du Seuil un rempli, qu'on appelle maintenant plus bêtement quatrième de couverture, en tout cas, ça dit bien ce que ça veut dire, bien sûr. Alors Solès m'a dit, là, il faut vous y coller, mais vous savez écrire ça. Effectivement, j'avais écrit ceci pour la postérité. J'avais écrit le rempli des essais critiques de Roland Barthes, qui m'avait dit, bon, ça avait été toute une aventure que d'obtenir de Barthes qu'il recueille, lui, ça a dû paraître en 64, je crois, qu'il fasse le recueil immortel, évidemment, de ses essais critiques, intitulés tout bêtement essais critiques. Donc il avait fait, nous avons été quelques-uns à le presser à le faire, dont Solers et moi en particulier. Et puis au dernier moment, Barthes m'a dit, mais oui, mais il y a une chose que je ne peux pas faire, c'est le rempli. Comme moi, je devais dire 2 ans plus tard à Solers, ce que je ne peux pas faire, c'est une introduction. Alors, il m'avait dit, mon petit gars, faut vous y coller, là. Alors, effectivement, j'avais écrit son rempli. Donc, j'étais connu dans les alentours de la collection telle qu'elle, comme celui qui savait torcher un rempli. Bon, alors, donc, ne pouvant pas me dérober à cette deuxième tâche, il y en a eu bien d'autres après, c'est pour ça que je ne dis pas seconde, ne pouvant pas me dérober à cette deuxième tâche, j'ai torché ce rempli qui ne se trouve plus maintenant, donc qui ne se trouve que sur les éditions les plus anciennes dans la collection telle qu'elle, de figures. Donc voilà en quelque sorte la genèse un peu auctorial et aussi un peu éditorial de ce volume, sur lequel j'ai quand même encore un mot à dire qui est plutôt négatif. Je vous ai déjà dit que je n'avais rien écrit en 66. Bon, je n'ai rien écrit, j'ai publié ce volume, mais ça n'est pas vrai d'ailleurs. Parce que j'ai commencé, mais pas fini, retardé par diverses considérations institutionnelles dont je vous épargne le récit, j'avais commencé d'écrire un essai sur Stendhal, et pas fini, et par conséquent, il n'y a pas dans, et ça évidemment pour moi c'est une plaie ouverte à mon flanc, il n'y a dans Figure pas de chapitre sur Stendhal. C'est comme ça. Diverses choses l'ont retardé et finalement cet essai sur Stendhal a paru dans Figure 2 en 1969. Entre temps, il y avait eu 68, mais je vais passer là-dessus. Donc si je n'avais pas été retardé par des circonstances institutionnelles, Figure aurait été un volume un petit peu plus long et qui aurait, disons, en contrepoint au chapitre sur Flaubert, comportait un chapitre sur Stendhal. Cette dissymétrie accidentelle, j'ai mis un certain temps à m'en remettre. Mais bon, je me suis donc rattrapé dans le recueil suivant, qui n'est vraiment rien d'autre qu'un recueil suivant et qui à mes yeux, est tout simplement un post-scriptum à Figure, intitulé Figure 2, donc, un codicille à Figure. Alors, pour en finir avec les considérations éditoriales, je ne sais plus à quel moment, mais probablement, quand on a publié Figure 2, j'ai décidé, lors d'une réimpression de Figure, j'ai pensé de voir l'intitulé Figure 1, parce que Figure puis Figure 2, c'est bancal. Donc, à partir de je ne sais plus quelle date, il y a eu Figure 1, Figure 2. Ce livre est désormais connu sous le titre, enfin connu. circule sans poussière, etc., sous le titre maintenant de figure 1. Mais il était né figure tout court. La phrase de Pascal aurait été un petit peu plus difficile à accrocher à un intitulé tel que figure 1. Enfin, je l'ai maintenu quand même. En réalité, en 1966, donc j'ai commencé et pas fini, un article sur Stendhal que j'ai rattrapé par la suite. Et puis, vous m'arrêtez si c'est trop long. Mais enfin, je crois que j'arrive au bout de mon histoire. En 66 aussi, ça fait partie de la manière dont je me suis révélé cette année-là. J'ai été par Georges Poulet, qui l'organisait, invité à participer à une décade de Cerisy, dont le titre était, je crois, Les chemins actuels de la critique. Et j'ai donc. Alors, cette décade a eu lieu en septembre 66. Donc, je ne sors pas des limites de l'épure, vous voyez. En septembre 66. Non, l'été 66, en vue de cette. Décade de Cerisy, j'ai écrit quelque chose qui était de nouveau une sorte de codicille à figure et qui, par une pulsion un peu formaliste, relevant de l'art de la contrepétrie, s'intitulait « Raison de la critique pure ». Ce qui ne fait pas seulement référence à Kant, que je considère avec beaucoup de respect, d'autant que depuis je l'ai lu, mais ça se réfère aussi à un personnage d'un roman de... Son nom m'échappe, mais Louis Guillou, qui est le sang noir. Dans Le sang noir, il y a un personnage d'un vieux prof chahuté, je crois, enfin, je ne sais plus très bien, mais quand on dit vieux prof, on dit toujours chahuté, alors allons-y. D'un vieux prof chahuté qui s'appelle Cripure, je crois, et alors ses élèves l'appelaient Cripure de la raison antique. Bon, alors j'ai joué sur tout ça. Pour une communication donc à la décade de Cerisy, de septembre 66, un texte qui m'est devenu, je dois dire, à la relecture aujourd'hui, qui m'est devenu un peu opaque. Je crois que je venais de publier un livre qui avait été assez bien accueilli par la critique. En ce temps-là, les livres de critique littéraire se vendaient comme des petits pains. Et donc, je me sentais bien, je me sentais tout guigré. Et donc, je pense que devant cette belle assemblée des cadres de Cerisy, dans ce cadre exquis, je crois que j'avais un peu envie de faire le malin. Donc, ce titre emporte la trace, n'est-ce pas ? Il a fait beaucoup jaser. Des gens ont cru que je m'étais trompé. Enfin bref. Donc en 66, dernière salve, si vous voulez, de ce qui a été pour moi en effet, comment dit-on déjà, annus mirabilis. Ça a été ma participation. Et donc ma communication dans cette décade qui a tout à fait indépendamment de ma petite plaisanterie personnelle, cette décade qui a aussi marqué une certaine date. dans l'histoire de la... non pas grâce à moi, donc, mais grâce à d'autres, tels que Georges Poulet, René Girard, Jean-Pierre Richard, Paul Demand peut-être, je ne sais plus, Jean Rousset en tout cas. Cette décade qui a marqué une date dans la brève histoire de ce qu'on a encore continué d'appeler pendant quelques années la nouvelle critique, à laquelle donc j'avais apporté ma petite pierre à l'édifice. Voilà, je m'arrête.
Au cours de cet hiver 1966, n'avez-vous pas aussi écrit quelque chose pour défendre Roland Barthes? Il me semble que j'ai lu, c'est peut-être dans Bardadrac, que je ne sais plus où, que lorsque...
Ne croyez pas tout ce qui est dans Bardadrac. Ouais.
Qu'après le pamphlet de Raymond Picard, où vous aviez incité Barthes, ou même mis la main... La quatrième de couverture de Critique et Vérité ne l'a eu
pas. Ah non,
pas.
Non. Non, là, ça, il l'a assumé.
Mais
c'est plus tard, ça a apparu en 66.
Oui.
Critique et Vérité.
Oui.
Ses essais critiques.
C'est 64. Mais dans Critique et Vérité, où vous dites que vous l'avez incité, mais que vous avez même pris la plume un peu. Vous...
Ah non. C'est très compliqué. Là, c'est vraiment de la petite histoire. Parce que, oui, quand a paru le pamphlet de Picard, je ne sais plus quel est son. Bah oui, nouvelle critique, nouvelle imposture, je crois.
Oui.
Barthes était assez affecté. Là, nous parlions très souvent ensemble dans ces années-là. Et il m'avait dit, ça faisait partie des petites corvées qu'il me confiait de temps en temps, parce que j'étais un peu son famulus. Il m'avait dit, il faut que je réponde à Picard et j'en ai pas envie. Je vois. Alors, effectivement, et là, il y a des textes qui en font foi. Je pense que tout ça se retrouve dans les archives Barthes à l'IMEC, si c'est bien à l'IMEC. Et puis, j'ai quelques lettres de lui qui font partie de mes maigres archives à moi, parce que je ne suis pas très archiviste. Mais enfin, quand même, les lettres de Barthes, je les garde. Donc, il y a quelques textes qui en font foi. Pendant quelques temps, Barthes, qui n'avait pas très envie de répondre à Picard, m'a demandé de lui écrire des espèces de brouillons de réponses. C'était ça ma tâche à ce moment-là. Là, on est donc en... Je ne sais pas quand a paru le livre de Picard.
À l'automne 65.
Oui, donc c'est assez rapproché tout ça. Hein. Oui. Voilà, donc je lui ai effectivement torché, comme je disais tout à l'heure, quelques brouillons de réponse à Picard qu'il a très sagement... considéré comme nul et non avenu, mais qui l'ont incité à prendre, comme on dit, lui-même, la plume. Et telle est ma contribution à Critique et Vérité, strictement rien d'autre. Donc voilà, je lui avais proposé une réponse à Picard qui ne pouvait évidemment pas être du Barthes, qui n'était pas vraiment beaucoup du Jeunette d'ailleurs, enfin, tout ça ne valait pas grand-chose, mais ça lui a donné l'impétus, je ne sais plus comment on dit, pour ce petit livre qui a effectivement paru en 66, lui aussi, un peu avant figure, je crois, février 66,
non. Mars, j'ai l'impression que
je suis... Oui, enfin, pardon, moi c'est mai. Voilà, mais je dois bien préciser que malgré toutes ces esquisses de collaboration, le livre de Barthes ne me doit absolument rien. Je suis intervenu dans sa genèse, mais à titre presque négatif, quoi. Enfin bon, il a vu ce qu'il fallait pas faire, et donc il...
Je lui ai fourni ce qu'il ne fallait pas faire et il a fait ce qu'il voulait faire. Voilà comment s'est déroulée pour moi cette merveilleuse année 1966, à laquelle je dois encore ajouter quelque chose, c'est que... Oui. Alors, vraiment, alors là, on tombe dans l'anecdote. Je crois que le jour même où j'ai signé les exemplaires de presse de figures, nous sommes allés, une personne ici présente et moi-même, au cinéma voir un film qui vraiment venait de sortir, qui quelques semaines auparavant avait obtenu la Palme d'Or, je crois, au Festival de Cannes, et qui n'était pas un film de Godard. Il n'était pas un film de Godard. Qui était, mais là je le dis je le dis en sachant que je me fais du tort. Mais bon, j'aime assez ça. Bref, nous sommes, Babette et moi, si je peux ainsi l'appeler publiquement, nous sommes allés voir Un homme et une femme. Le film qui n'est pas de Godard, mais qui est bien de Lelouch. Et je dois dire que d'avoir ce jour-là même vu ce film pour lequel je conserve... D'ailleurs, pour toute l'œuvre de Lelouch, en fait, j'aggrave mon cas. J'ai pour toute l'œuvre de Lelouch, avec des hauts et des bas, naturellement, et en particulier pour celui-là, qui pour moi est inoubliable, pour toutes ces raisons que vous voyez, j'ai pour cette œuvre une certaine tendresse qui est un des points qui m'attache au souvenir de l'année 1966. Et encore une dernière indication qui est d'un autre ordre, mais là nous sommes passés de l'écriture à la filmitude. Je passe à la jazzitude pour mentionner qu'en novembre, je crois, le 13 novembre 1966, à la salle Pleyel, le sublime Stan Getz est venu donner un concert de jazz, évidemment, avec quelques-uns de ses complices de l'époque, et que ça aussi, c'est un moment de l'année Annus Mirabilis 1966 que je ne risque pas d'oublier. Merci.
Merci.